pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 19e dimanche. Après le repas des pains multipliés, il contraint aussitôt les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il congédie les foules. Ayant congédié les foules, il monte sur la montagne à l'écart pour prier. Le soir étant venu, il est là, seul. La barque était déjà éloignée à plusieurs stades de la terre, tourmentée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il arrive vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, en le voyant marcher sur la mer, sont troublés, disant que c'est un fantôme, et ils crient de peur. Aussitôt, Jésus leur parle.
« Confiance, c'est moi. Ne craignez pas. »
Pierre lui répond et dit.
« Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. »
Celui-ci lui dit.
« Viens. »
Et descendant de la barque, Pierre marche sur les eaux et va vers Jésus. Voyant le vent fort, il a peur. Ayant commencé à s'enfoncer, il s'écrie.
« Seigneur, sauve-moi !»
Aussitôt, Jésus, étend la main, le saisit et lui dit.
« Mini croyant, pourquoi doutes-tu ? »
Quand ils sont montés dans la barque, le vent se calme. Eux, dans la barque, se prosternent devant lui en disant.
« Vraiment, tu es fils de Dieu. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Oui, bonjour Georges. Eh bien, comme si le merveilleux de la multiplication des pains ne suffisait pas, voici qu'aussitôt après, le récit évangélique nous fait marcher, fait lire la marche sur les eaux.
Oui, rappelons ce que nous disions la semaine dernière. Dans la compréhension de ce récit, il faut éviter un double écueil. Le premier, qui est de nous arrêter au merveilleux, d'arrêter notre recherche de sens au merveilleux. Et le deuxième, de vouloir à tout prix trouver des explications rationnelles aux phénomènes extraordinaires qui nous sont racontés. Nous allons plutôt rechercher les symboles qui se trouvent dans ce récit et qui seuls permettent de comprendre la vraie profondeur du texte et de découvrir la réalité vraie qui est vécue par les personnes. Eh bien, le contexte. Le contexte, Jésus vient de vivre une des journées de mission qui semble être des plus intenses depuis le début de sa prédication. Il a enseigné aux foules toute la journée. Et au soir venu, il va conclure son enseignement par un repas de communion. Cela se comprend dans le cadre de toute la tradition biblique où on associe la nourriture matérielle à la nourriture spirituelle. En effet, pour la Bible, manger tout en échangeant sur la parole de Dieu, eh bien c'est un geste sacré, car il va sceller une communion entre Dieu et l'humain, et une communion pour toujours. Ce repas des pains multipliés évoque fortement la conclusion de l'alliance entre Dieu et les tribus juives, telle qu'on la trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 24.
Moïse vint à raconter au peuple toutes les paroles du Seigneur et tous les préceptes. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Ils contemplèrent Dieu, ils mangèrent et ils burent.
Et on le voit, la conclusion de l'Alliance associe donc la proclamation des paroles divines et le repas devant Dieu. Mais dans notre texte, après ce repas des pains multipliés, on voit que Jésus et les foules vont diverger sur la manière dont cette alliance doit se concrétiser. Les foules, elles, espèrent la libération politique de leur pays et l'abondance des biens terrestres. Jésus, lui, au contraire, va parler d'abord de liberté intérieure. C'est l'amour de Dieu, qui doit guérir chaque être de tout ce qui l'empêche d'être vraiment humain. Oui, ils sont sur le droit chemin du bonheur, ceux qui vivent de miséricorde, ceux qui font œuvre de paix, ceux qui sont des artisans de pardon et de réconciliation, ceux qui ne répondent à la violence que par la bonté, ceux qui, comme Dieu, veulent aimer chacun et tous, y compris les voleurs et les criminels, et pas seulement ceux qui les aiment. Voilà la liberté et le bonheur que Jésus promet. Et voilà sans doute l'assemblée de ces bienheureux que Jésus veut réunir autour de son Père, le grand miséricordieux. Cette droiture de cœur, toute marquée par la bonté inconditionnelle, est sans doute infiniment plus exigeante que la conduite droite qui était enseignée alors par les pharisiens. La droiture des pharisiens était en effet marquée par une stricte justice. Tu fais le bien à celui qui te le rend, et tu rends l'appareil à celui qui te fait du tort. Pour eux, pour les pharisiens, Dieu récompense dès maintenant ceux qu'il mérite, et il punit ceux qui ont fauté. Et donc toute maladie, toute épreuve, est considérée comme un châtiment de Dieu pour les fautes commises. La droiture de Jésus, elle, est tout entière axée sur la bonté généreuse et le pardon. Et ce chemin de l'Évangile, il ne faut pas penser qu'il est plus facile. Au contraire, Jésus nous dit qu'il est resserré et que peu nombreux sont ceux qui le trouvent. En effet, le disciple de Jésus devra être comme son maître, celui qui sera rejeté par ceux qui fondent les bases de la société sur la seule justice, sur la justice stricte. À cela, le pardon des fautes, la bonté, la miséricorde semblent plutôt des faiblesses auxquelles il faut s'opposer à tout prix. Alors le disciple est envoyé comme une brebis au milieu des loups. Ô Jésus, certes, sera le bon pasteur, comme le Père divin est le bon pasteur, mais Jésus ne rassemblera qu'un petit troupeau. Son assemblée, son Église, sera pour longtemps, peut-être faut-il comprendre, pour toujours, comparable à un tout petit peu de levain dans l'immense pâte du monde. Eh bien, ces pensées sur l'avenir de l'Église, de son Église, de son assemblée, est-ce que ces pensées ne devaient pas alimenter la réflexion de Jésus dans la nuit de prière qui a succédé à ce repas de la nouvelle alliance avec les 5000 personnes. Dans cette foule qu'il a nourrie de son enseignement, sans doute que Jésus se demande combien vont choisir de le suivre et de le suivre jusqu'au don de leur vie. Eh bien, venons-en au texte d'aujourd'hui. Cette méditation sur le sort de la petite assemblée de ses disciples, une assemblée qui va être au milieu d'un monde où la violence semble bien plus forte que la bonté, eh bien, Jésus va faire mimer cela à ses disciples. Ils sont là sur le lac, dans une pauvre barque qui est la figure de ce petit troupeau à qui le Père confie le sort de son règne. Cette barque est la figure de l'Église. L'Église est une barque tourmentée par les flots en furie, les flots qui sont l'image des forces de violence qui règnent dans le monde. Oh oui, l'Église ne sera jamais semblable à un transatlantique pour croisière de vacances. Elle ne sera pas d'ailleurs non plus semblable au sous-marin qui met ses passagers à l'abri des courants marins, qui les met comme dans une sorte de ghetto, les préservant des tentations et des épreuves. Non, en cette nuit sur le lac, comme dans la nuit du monde, le vent est contraire. L'esprit qui souffle, c'est l'esprit du mauvais, de celui qui s'oppose à Dieu aux forces de l'amour. La symbolique de la mer, comme le lieu des forces obscures et maléfiques, c'est une symbolique très ancienne. Si la première création de la terre a été considérée comme une victoire sur l'abîme des eaux, eh bien la recréation du monde, l'Apocalypse va la décrire comme la disparition de la mer.
Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, et la mer n'est plus.
Oui, selon les conceptions des peuples anciens, la mer était comme le résidu du chaos primitif. Et elle était donc perçue comme le lieu de séjour des puissances du mal. Alors, puisque le péché a détruit l'œuvre de Dieu, eh bien, la recréation du monde va être une lutte constante contre les forces mauvaises des abîmes. Une lutte qui sera menée par les humains avec la force d'amour du Créateur. Dans un texte de la littérature juive, le Testament des 12 patriarches, on trouve un récit assez comparable à celui que donne l'Évangile. Nous pourrions le résumer.
Nephtali, un des fils de Jacob, raconte un rêve qu'il venait d'avoir. Jacob et ses fils montent en bateau. La tempête se déchaîne. Jacob, qui tenait le gouvernail, est enlevé et disparaît. Le bateau à la dérive est sur le point de sombrer. Lévi prie et appelle le Seigneur au secours. La tempête se calme et le bateau atteint la terre. Et les fils de Jacob retrouvent soudain leur père.
Nephtali va expliquer d'ailleurs le sens de cette vision, la tempête. Elle signifie les événements des derniers temps qui vont fondre sur le peuple d'Israël. Le retour de Jacob, eh bien, c'est l'image de l'apparition de Dieu qui vient habiter parmi les humains sur la terre pour sauver la race d'Israël. Mais on trouve aussi dans les psaumes l'évocation de situations analogues à celles de notre récit. Écoutons quelques petits extraits du psaume 107 et du psaume 88.
Ils criaient vers le Seigneur dans la détresse. Il les a délivrés de leur angoisse. Il ramena la bourrasque au silence et les flots se turent. C'est toi, Dieu, qui maîtrise l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Ils se sont réjouis de ce retour au calme et Dieu les a amenés au port désiré.
Rappelons que Jésus avait déjà fait vivre à ses disciples un autre mime semblable à celui-ci.
Jésus monta dans une barque et ses disciples suivirent. Voici qu'il y eut sur la mer une grande tempête, au point que la barque allait être recouverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. Ils s'approchèrent, le réveillèrent en disant, « Seigneur, au secours, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, mini-croyants ?» Alors, debout, il menace les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les hommes s'émerveillèrent, et ils disaient, « Qui est-il celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?»
Mais la différence, c'est que dans cette nuit qui suit le repas des pains, les disciples sont encore plus seuls, car Jésus n'est pas avec eux. Jésus est resté sur la montagne pour prier. Leurs ténèbres, eh bien, elles sont donc complètes. Qui viendra mettre une lueur d'espoir dans leur nuit ? Et c'est seulement à la quatrième veille, entre 3 et 6 heures du matin, avant que l'aube n'apparaisse vraiment, que Jésus va venir au secours des siens. Il marche sur la mer, il domine les vagues en furie comme le vainqueur des forces du mal, ces forces qui mettent sans cesse en péril la barque du règne de Dieu. Et les disciples s'écrient, c'est un fantôme. Alors y a-t-il dans cette réaction une préfiguration de la réaction des 11 lorsqu'au matin de Pâques, le ressuscité leur apparaît vainqueur de la mort?
Saisis de frayeur, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi ce trouble? Pourquoi des doutes montent-ils dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. »
Et dans la nuit sur le lac, eh bien, la réponse de Jésus va être la même. « Ayez confiance. Je suis, c'est moi. Soyez sans crainte. » C'est alors que Pierre va, d'une certaine manière, servir de modèle aux disciples de Jésus de tous les temps. Car Pierre veut vivre la foi par laquelle Dieu aide son fidèle à vaincre le mal, à dominer les forces contraires. Il veut marcher sur les eaux. Et il va vers Jésus, marchant sur les eaux, mais lorsque son regard se détourne du Dieu qui rend fort, et qu'il va se fixer sur le vent, sur l'esprit mauvais qui souffle violemment, alors Pierre va se mettre à douter et à sombrer. « Oui, mini-croyant, pourquoi as-tu douté ?» lui dit Jésus. Est-ce que ce n'est pas déjà la préfiguration de ce qui arrivera à Pierre, dans cette autre nuit où les forces du mal se déchaîneront sur Jésus pour l'arrêter et le condamner à mort. Pierre alors suivra Jésus depuis le mont des Oliviers jusqu'à la maison du grand prêtre, mais il perdra pied, dans la peur d'être démasqué par les gardes et d'être arrêté à son tour, et alors il reniera son maître comme un mini-croyant. Hilaire de Poitiers, au IVe siècle, fait déjà ce rapprochement dans son commentaire sur saint Matthieu.
De tous ceux qui sont dans la barque, seul Pierre ose répondre. Il prie le Seigneur de lui ordonner de venir sur les eaux. Cela préfigure le mouvement de sa volonté au temps de la Passion, quand, après l'arrestation au jardin, il retourne seul s'attacher aux pas du Seigneur, et qu'il accompagna avec le même courage, méprisant la mort. Mais sa peur sur le lac annonçait aussi sa faiblesse dans la tentation future. Car il osa bien marcher sur l'eau, mais enfonça. Et la crainte de la mort le poussa aussi à renier son maître. Cependant, il crie quand il s'enfonce, et il implore le Seigneur, implore du Seigneur le salut.
Croyant. Oui, c'est ainsi qu'on peut traduire le mot grec oligopistos, qui signifie le peu croyant. Peut-être que nous avons trouvé surprenant ce doute de Pierre et des autres disciples, car il se peut que, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, nous nous disions « Ah, moi, si j'avais vu Jésus marcher sur la mer, j'aurais cru. » Si. Est-il si facile de croire, même si on voit? Les pharisiens et les sadducéens, est-ce qu'ils n'ont pas vu les miracles de Jésus? Ils n'ont pas cru pour autant. Et souvenons-nous aussi de l'apôtre Thomas.
Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, je ne croirai pas.
Et Jésus va lui dire la béatitude qui vaut pour tous les croyants de tous les temps, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dans la parabole de Lazare et du riche, ce dernier demande à Abraham d'envoyer quelqu'un chez ses frères afin qu'il se convertisse. Mais qu'est-ce qu'Abraham lui répond?
S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait de chez les morts, ils ne seront pas convaincus.
N'allons pas penser d'ailleurs que notre mini-foi vient de ce que nous sommes ignorants des Écritures, car les pharisiens et les scribes étaient des spécialistes de la Bible. Et la plupart d'entre eux n'ont pas été convaincus. Il ne suffit pas en effet de connaître la parole de Dieu, encore faut-il l'écouter au sens que la Bible donne à ce mot, qui est « obéir ». On ne connaît vraiment la parole que si on en vit quotidiennement. Et comme s'il n'était pas suffisant de fouetter le manque de foi des siens, bien Jésus, souvent, les a provoqués en louant la foi des païens. Souvenons-nous, c'est en effet d'un païen officier de l'armée romaine que Jésus va dire
« Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. »
Et c'est encore d'une païenne à qui il refuse d'abord de guérir sa fille, car il ne convient pas de donner aux païens ce qui appartient d'abord au peuple croyant. C'est de cette païenne que Jésus dira
« Ô femme, grande est ta foi. »
Or Jésus nous a souvent aussi avertis.
« Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, de territoires païens, pour prendre place à la table de Dieu, tandis que les héritiers du règne, le peuple de Dieu, resteront dehors. »
Oui, mini-croyant que ces descendants d'Abraham, le père des croyants. Oui, mini-croyant que ces membres du peuple de Dieu fondé par Moïse. Oui, mini-croyant que nous sommes, nous, disciples de Jésus d'aujourd'hui. Oh, certes, nous croyons que Dieu existe. Mais qu'est-ce que nous appelons croire? Est-ce qu'il n'est pas symptomatique que lorsque nous disons dans le langage ordinaire « je crois », Cela veuille dire souvent, je ne suis pas sûr, mais je suppose, je fais l'hypothèse que... Est-ce que nous n'opposons pas la foi et la connaissance certaine, cette connaissance certaine qui serait d'ailleurs uniquement la connaissance scientifique, et notre prière? Notre prière est-elle une vraie prière de vrais croyants? Ou bien est-ce qu'elle s'adresse à un Dieu lointain à qui nous parlons comme à un absent, à qui nous envoyons un message sans trop savoir si ce message va lui parvenir? Notre prière ne devrait-elle pas s'adresser au Père, plein de tendresse, au Père qui est si proche de nous, plus intérieur à nous que nous-mêmes? Avons-nous cette confiance que le Père nous écoute avec attention, avec compréhension, qu'il est celui qui connaît les secrets de notre cœur et qu'il marche sans cesse à nos côtés? Oui, mini-croyants que nous sommes, n'avons-nous pas souvent besoin de signes extraordinaires pour continuer à croire? Ne sommes-nous pas de ceux qui marchandent leur foi, qui croient, mais à condition que Dieu exauce leurs demandes? Demande de notre guérison, demande de la guérison d'un proche, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale. Demande de la réussite dans les affaires, du succès à un examen ou de la chance à la loterie. Ces attitudes de prière sont peut-être plus fréquentes qu'on ne pourrait le penser ou l'avouer. Et ces idées, bien sûr, peuvent surgir en nous en des temps d'épreuve. C'est alors qu'il nous faut nous redire ce que Jésus disait à ceux qui exigeaient des signes, génération mauvaise et adultère, adultère au sens d'un croyant doutant de l'amour de Dieu. Oui, à l'heure de l'épreuve, est-ce que nous nous tournons avec confiance vers Dieu, lui disant notre faiblesse? Nous abandonnant tout entier à lui, confiant qu'il saura nous donner son aide au temps opportun et qu'il sait mieux juger que nous-mêmes de ce temps opportun. Relisons ce beau commentaire d'Origène dans son commentaire sur saint Matthieu.
Si un jour nous sommes aux prises avec des tentations inévitables, souvenons-nous que Jésus nous a obligés à nous embarquer et qu'il veut que nous le précédions sur le rivage d'en face. Car il est impossible, pour qui n'a pas supporté l'épreuve des vagues et du vent contraire, de parvenir au rivage d'en face. Puis quand nous nous verrons entourés de difficultés nombreuses et pénibles, fatigués de naviguer au milieu d'elles avec la pauvreté de nos moyens, pensons que notre barque est alors au milieu de la mer, secouée par les vagues qui voudraient nous voir faire naufrage dans la foi. Si par ailleurs nous voyons le souffle du mauvais s'acharner contre nos entreprises, songeons alors que le vent nous est contraire. Quand donc parmi ces souffrances, nous aurons enduré trois veilles de la nuit obscure qui règne dans les moments de tentation, luttant de notre mieux. Soyons sûrs alors que la quatrième veille venue, quand la nuit sera avancée et qu'approchera le jour, arrivera près de nous le Fils de Dieu, pour nous rendre la mer bienveillante en marchant sur les flots. Confiance, je suis. N'ayez pas peur.
Il n'est pas facile de traduire la formule grecque « ego eimi ». On peut la traduire simplement par « c'est moi ». Mais elle peut aussi traduire l'expression biblique qui désigne Dieu « je suis ».
Moïse dit à Dieu, « S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Voici ce que tu diras aux gens d'Israël. « Je suis m'a envoyé vers vous. » Voyez que moi je suis et que nul autre n'est Dieu. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Moi je suis le Seigneur et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur.
Oui, comment comprendre ce que Jésus dit aux disciples? Eh bien, peut-être en ce sens. À travers moi, c'est Dieu qui est là, votre sauveur. N'ayez donc aucune crainte et faites confiance. À travers moi, en moi, Dieu sera toujours avec vous. Ce « toujours avec vous », est-ce que ce n'est pas d'ailleurs la signification du nom même de Jésus en langue juive, Yeshua, qui a été traduit par Jésus, Yeshua signifie « le Seigneur sauve ». Et au début du récit de Matthieu, Jésus est présenté comme l'Emmanuel, un nom hébreu qui veut dire « Dieu avec nous ». L'évangile de Matthieu, de plus, se terminera par cette parole donnant pleine assurance aux disciples « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Mais il faut bien comprendre que cette présence de Jésus n'est pas une présence rassurante au sens où nous voudrions l'entendre, c'est-à-dire celle où il n'y aurait pas de vent, de tempête, d'agitation. Non, le temps de notre vie est celui des trois premières veilles de la nuit. La foi chrétienne n'est pas un refuge qui mettrait le disciple à l'abri des difficultés. Dieu n'agit jamais sans nous. Nous sommes parfois tentés de dire « Oh ben laissons Dieu faire, abandonnons-nous à lui. Nous voudrions que tout ce qui arrive, ce soit Dieu qui l'ait voulu ou désiré. » Non, les forces du mal agissent et provoquent des situations que Dieu ne veut pas, ne voudrait pas. Jésus n'a pas prié son Père d'enlever ses disciples du monde, mais de les garder du mauvais. Le chrétien est appelé à suivre son maître en luttant contre toutes les forces d'injustice qui oppriment les plus mal pris. Et cette lutte doit se faire, mais avec les armes qui sont celles de Jésus, c'est-à-dire à la fois la dénonciation sans équivoque de ce qui est mal, mais en même temps l'amour. L'amour pour convaincre celui qui fait mal et convertir son cœur. Cette lutte se fera souvent dans la nuit, sans la présence sensible de Jésus. Secoués par l'épreuve, nous pourrons nous sentir abandonnés au milieu de la tempête. Mais Jésus lui-même n'a-t-il pas crié sur la croix « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment comprendre ce cri de la part de celui qui était le Fils bien-aimé ? Eh bien, pour que le don de lui-même soit réellement accompli, pour que sa réponse à tous ceux qui le mettent à mort soit un vrai pardon d'amour, il fallait sans doute que Jésus éprouve cette solitude, dans cette nuit où la résurrection n'est encore qu'espérance et non réalité accomplie. Jésus nous sauve, mais il ne vient pas télescoper nos réponses lorsque nous devons vivre le pardon envers ceux qui nous ont fait du mal. Ce pardon, Jésus va certes le vivre avec nous, mais il demeurera une épreuve, un don souffrant de nous-mêmes, une passion. Reprenons cette phrase, cette prière de Pierre Talec.
Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui rassure facilement, mais comme le guide de montagne, tu nous assures, car tu es l'amour. Affermis-nous en cet amour.
Et si notre foi vient à faiblir, à faillir, alors Pierre, le premier des 12, reste encore notre modèle. Comme lui, il nous faut tourner notre regard vers Jésus et rencontrer le sien qui nous dit « Pierre, m'aimes-tu toujours ? Alors laisse-moi te laver encore les pieds pour que tu sois toujours en communion avec moi. » Oui, même après de longues années de communion avec Jésus, nous pouvons nous retrouver dans la prière du père de l'épileptique « Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon peu de foi. »
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi ou du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner, téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs des abonnements.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.